Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un chaud-devant festival international du film de fiction historique avec Tom Leb. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. Et bonjour Léo.
Bonjour Vanessa.
Je continue à dérouler les interviews que j'ai fait au Festival international de films de fiction historique. Et cette fois-ci, j'ai la chance d'avoir rencontré un acteur qui ne laisse pas indifférent. C'est Tom Leb. Et oui, bien sûr, mesdames, je crois que je vous sens frémir derrière votre radio, votre sens internet. Vous êtes là en train de vous dire, oh mon Dieu, Tom Leb. Bien, il était présent au festival pour la partie scolaire. Il était venu représenter la série Les Combattantes. Et oui, la mini-série Les Combattantes qui avait fait les beaux jours de TF1 et qui est maintenant en intégralité encore disponible sur Netflix, à ne pas manquer, parce que ça parle de la Première Guerre mondiale, la 1914 à 1918, de grands moments et des choses oubliées. Léo, est-ce que tu peux nous en apprendre un peu plus sur Les Combattantes ?
Septembre 1914. Depuis quelques semaines, les combats font rage. Dans un petit village de l'est de la France, à quelques kilomètres de la zone allemande, quatre femmes se retrouvent projetées au cœur de l'horreur. Marguerite, prostituée parisienne aussi mystérieuse que flamboyante, que l'on soupçonne d'être une espionne. Caroline, épouse de Victor DeWitt, propriétaire d'une usine de voitures, partie au front. Elle se voit propulsée à la tête de l'entreprise familiale, défi colossal et inédit pour une femme du début du siècle. Agnès, mère supérieure d'un couvent réquisitionné et transformé en hôpital militaire. Dépassée par l'afflux de blessés, Agnès est de plus en plus tourmentée et questionne ses choix de vie. Et enfin, Suzanne, jeune infirmière féministe en cavale depuis un avortement qui a mal tourné.
Quatre grands noms, quatre comédiennes incroyables. Et oui, nous avons Audrey Fleurot, Julie Debonat, Camille Lou et Sophia Essaïdi. Quatre grandes dames qui ont vraiment donné une dimension totale à la mini-série Les Combattantes. Alors j'oublie pas les garçons, bien sûr, et dont Tom Leb, qui jouait un médecin militaire. Et c'est vrai que dans cette fiction qui rattrape la réalité, malheureusement, de tout ce qui s'est passé en 14-18, des blessés horribles. Et donc, on a pu parler avec Tom Leb, qui était venu pour les scolaires. Et c'est des moments qu'il va nous expliquer. Et je vous assure, ça vaut vraiment le détour parce que il y a l'interview qu'on a fait et je vous propose de la découvrir.
Bonjour Tom.
Bonjour, bonjour, bonjour.
On est au Festival international de films de fiction historique.
Ouais.
Il y a eu la cérémonie d'ouverture hier. Comment c'était ?
C'était sincère de la part de Étienne, qui est le créateur du festival. Les mots qu'il a trouvés à l'égard de Michel Hazanavicius, qui était, je crois, l'invité d'honneur par le prix qu'il a reçu. J'ai trouvé que c'était, sincère, qu'il y avait une vraie passion du cinéma, du film historique bien sûr, mais du cinéma avant tout, des histoires, de la réalisation, des acteurs. Et c'était très agréable de voir quelque chose de spontané. Voilà, il n'y avait pas de discours prévu. J'ai pas vu de papier sous ses yeux. Donc il y avait quelque chose de spontané et d'élégant finalement. Et voilà, c'était agréable d'en être.
Qu'est-ce que ça vous fait d'être le représentant de cette magnifique série Les Combattantes et de le présenter aux collégiens ?
Je suis très fier. J'ai beaucoup aimé le projet. J'ai aimé le lire, j'ai aimé le tourner et j'ai aimé le découvrir ensuite. Ça a été sublimé par plein de choses, que ce soit la qualité du montage, que la qualité même de l'image, l'étalonnage, ce genre de choses. Des choses que nous, en tant qu'acteurs, on découvre pas tout de suite sur le plateau. C'était un projet qui me tient beaucoup à cœur et que je continuerai à défendre à travers les années. Alors on est beaucoup sur le projet, hein. C'est pour ça que votre question elle est.
Il y en a quelques-uns.
De dire qu'est-ce que ça vous fait d'être là pour
représenter, c'est pour ça, d'être le représentant, le seul représentant.
On devrait être une quinzaine, vraiment, il y a une quinzaine de rôles très présents dans cette série. Je pense que par souci de disponibilité, je vais parler en leur nom aujourd'hui et dire que c'est déjà super qu'elle soit sélectionnée, la série ici. Et voilà, parce que le plus de gens la voient, le mieux c'est, parce qu'elle est vraiment réussie à tout point de vue.
Elle est encore disponible sur Netflix en intégralité, on est d'accord.
Absolument, oui, disponible.
Elle a reçu la semaine dernière un prix à la fin du Festival de fiction de La Rochelle.
C'est ça.
Le prix Télé-Loisirs.
Exactement.
Qui a été reçu par Audrey Fleurot, qui était la présidente du jury.
Voilà. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'était prévu, mais je...
Non, pas du tout, parce qu'elle était cachée. Elle ne nous avait pas montré sa tenue. D'accord. Et elle a dit, bon, vous faites comme si que j'étais pas venue recevoir le prix.
C'est ça. Je suis fier pour les auteurs, fier pour le réalisateur, fier pour nous et les comédiens. Je pense que ça mérite, effectivement. Cette série mérite une exposition... parce qu'elle est réussie, elle traite merveilleusement bien du sujet de la guerre, elle traite merveilleusement bien du sujet des femmes, et plonger les femmes dans la guerre, c'est parce qu'elles ont eu un rôle exceptionnel en 1914, c'est important. Donc voilà, je suis très content qu'elle ait reçu le prix.
Et quelle femme ? Camille Lou, interprétée par Camille Lou. Ouais. Sophia Issaidi, Julie Debona, Audrey Fleurot.
Ouais, des comédiennes formidables pour jouer ces femmes-là, c'est vrai. Bien trouvé. Ouais. Donc voilà, c'est...
Et vous, dans un rôle de médecin militaire, pas très facile du tout, hein, je parle par rapport aux conditions du personnage.
Pas facile, oui, c'est vrai. Je dois avouer, pour la petite histoire, que le premier jour où je suis arrivé sur le plateau et que j'ai découvert donc le décor et le travail des artistes, vraiment pour le coup, qui sont occupés de la déco du film, j'étais un peu déstabilisé de par la réalité des choses, de par le travail de reconstitution, le souci du détail, que ce soit des taches de sang perdues dans un coin qu'on filmera jamais, tous les instruments opératoires, toutes ces choses-là. Et j'étais un peu déstabilisé, je suis resté un peu dans mon coin à regarder tout ça et me dire, ce qu'on raconte là, ça a pas 2000 ans, quoi. Ça a une centaine d'années. C'est encore là, c'est encore chaud, quoi. On sent encore, par le travail de reconstitution, on sent encore l'odeur du sang et, on se dit c'était hier quoi finalement ce que ces gamins ont vécu c'était hier, donc ça permet d'être plongé en même pas 20 minutes en arrivant sur le plateau, d'être plongé dans cette réalité et de s'en rapprocher et donc d'avoir la possibilité de la raconter le mieux possible. Je me rappelle, ça m'a vraiment marqué, vraiment j'ai eu un petit haut-le-cœur quoi, je me suis dit, on joue vraiment le truc là, on y va à fond et c'est important.
Maxence nous l'avait dit, hein, il était venu ici au festival et il nous avait expliqué que il allait justement retourner sur le tournage et que il était très heureux parce que les tranchées, enfin ce qu'il vivait, ce qu'il mettait en place, c'était vraiment authentique quoi. Alexandre, les décors avaient fait.
Et puis c'est ambitieux comme projet, pas seulement sur ce que ça raconte, mais c'est ambitieux en termes de production. Voilà, il y a énormément de figurants, quand on remet en scène des séquences de guerre, il faut que ce... Et pour que ça puisse avoir l'impact sur l'émotion, la bonne émotion, il faut y aller, quoi. Il faut qu'il y ait des explosions, il faut qu'il y ait la figuration, il faut qu'il y ait les bruits, il faut qu'il y ait... Donc c'est un travail monstrueux, quoi. Surtout en pleine forêt, dans la pluie,
Ah oui.
Donc c'est ça qui est excitant aussi dans le cinéma.
des petits jeunes collégiens. Est-ce que ça vous rappelle vos 13 ans et la première fois que vous êtes monté sur scène?
Ouais, bien sûr. Ah bah, évidemment.
Madame Doonfire, hein, si je me trompe pas.
Ouais. Avec mon père, j'avais eu l'occasion de faire ça et ça fait 20 ans. Je suis en train de dire, ça fait 20 ans. Oh, c'est horrible. Je te jure, c'est horrible, 20 ans. Ouais, j'avais 13 ans, j'en ai 33, ça fait 20 ans. Voilà. Et non, je garde un souvenir magnifique. Je me rappelle du trac monstrueux que j'avais parce que j'étais jamais monté sur scène. Absolument jamais mis un pied dans un cours de théâtre que j'avais suivi à moitié parce que j'étais passionné de sport à ce moment-là. Mais on m'avait dit, pourquoi t'en parcourrais pas dans cette aventure? Et je me suis dit, bon, un peu détaché du truc, bah ouais. Et en fait, je me suis retrouvé face à la peur de mal faire, face à la peur qu'ont les comédiens tous les jours, quoi, la peur d'être jugé, d'être mauvais dans ce qu'on fait, de ne pas être le bon choix, tout ça, toute cette espèce de subjectivité qui flotte autour de nous et qui moi me tétanise un peu encore aujourd'hui. Et je me rappelle de ça, le soir de la première, j'étais je tremblais dans la petite loge qui nous avait mis nous les jeunes. C'est impossible, j'étais allé voir mon père, je lui ai dit, je suis désolé, merci du projet, mais je ne vais pas y aller. C'est vraiment pas, je vais pas y aller. Et il m'a dit, je te promets que ce que tu ressens là, tu vas le ressentir jusqu'à ce que tu mettes un pied sur scène. Et une fois que tu mettras un pied sur scène, je t'en dis pas plus, on s'en parlera après. Mais fais-moi confiance. J'ai décidé de lui faire confiance, c'est vrai que j'ai mis le pied sur scène. Et au moment où j'ai atterri sur scène, tout a pris sens, quoi. C'est exceptionnel ce qui se passe. Voilà.
Et après, il y a quelques années qui se passent, sous le soleil.
Ouais.
Tom. Ouais. Fils, Tom.
Ouais. Ouais.
De Caroline.
Ouais. Ouais.
D'Aldine Blondio.
C'est ça, c'était ma toute première occasion de travail, ma toute première opportunité en tant qu'acteur. J'avais. Ça c'était il y a 10 ans. J'avais 22, c'était 11 ans. Et j'en garde un bon souvenir parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Je dirais même que ça m'a appris plus que ce qu'apprennent les écoles d'acteurs. Écoles par lesquelles je suis passé, pour justement essayer de me faire des valises un peu. Et finalement, il y a que sur le terrain. Hein. C'est pas une phrase banale que de dire ça, c'est une réalité. Et ça m'a en fait appris beaucoup de choses en un temps très, très serré parce que voilà, c'était une production qui avait besoin d'aller vite. Donc voilà, quand on a 7 ou 8, parfois 10 séquences à jouer dans la journée avec beaucoup de textes, ou dans ce genre de série, on tourne souvent autour des mêmes choses parce que voilà, il faut que les gens, si on zappe, c'est assez explicatif parfois, donc c'est difficile à faire. Ça m'a beaucoup appris, donc j'en garde un très bon souvenir.
Puis une sacrée série quand même, Plan B.
Ouais.
Avec Julie Debona.
Ouais.
Un rôle, où au début avec Julie, et puis après, comme il y a des changements de temps, il change de façon. Quand vous avez lu le scénario, qu'est-ce que ça vous a fait de vous dire que votre personnage allait changer au cours des sauts dans le temps?
Alors, pour être très franc avec vous, vraiment, à la lecture du scénario, je me suis vraiment concentré sur la trajectoire du personnage de Julie, qui est riche, qui est beau, qui est original dans ce que ça raconte. Le mien, c'est moins identifiable, je dirais. Ouais, effectivement, mais on le sait par l'indication du temps qu'on n'est pas à la même période et tout ça. Mais ce qui est beau dans cette série, c'est de découvrir ce qu'elle traverse et comment elle le traverse. Et voilà, le fait qu'on passe d'un plan à un autre, c'est moins vibrant, je dirais, pour un personnage comme le mien que pour un personnage comme Julie et toute sa famille. Mais j'ai beaucoup aimé cette série et ce que ça racontait. Et puis le propos et l'idée, très original.
Une autre série aussi, Infidèle, la saison 2.
Ouais.
Arrivé sans faire de casting, la toute première fois.
Oui, comment vous savez ça?
J'ai mes sources.
Effectivement, c'était la première fois qu'on me proposait de participer à un projet sans passer par cette étape un peu ingrate qu'est le casting, c'est vrai. Et j'ai été... J'en garde un souvenir assez beau parce qu'en fait, en même temps, pendant Infidèle, j'étais rentré sur le projet de l'Eurovision.
Oui.
Et j'avais un peu ces deux trucs en même temps. Et le fait de l'Eurovision est un peu une sorte de raz-de-marée d'informations et de choses qui sont un peu qui peuvent être un peu déroutantes. Et le fait de revenir sur Infidèle ça me ramenait un petit peu à la réalité de ce que j'aime du métier et tout ça. Donc j'ai un souvenir d'Infidèle très précieux grâce au bien que ça me faisait. Et ça me faisait souffler, en fait. L'Eurovision était un peu vertigineux, voilà. C'était un peu...
Donc, 65e ouais. édition, de l'Eurovision.
Ouais, voilà. Et puis
même... n'a pas eu lieu.
Ouais. Mais ce que ça représente, est-ce que ça demande et tout, en termes d'investissement personnel, émotionnel, tout ça, c'était un peu... Et donc, de retourner sur Infidèle et de retrouver Claire et les réalisateurs et le reste de l'équipe, ça me faisait un bien fou. Donc, j'étais très content d'en être. Ouais.
Et puis, il y a le cinéma. Ouais. Avec Pourri Gâté.
Ouais.
Rôle de Playboy encore.
Oui, un rôle de Playboy, ouais. Mais un Playboy qui quand même est profondément malheureux dans la vie, qui est obligé de s'inventer une vie pour survivre, en fait. Donc ça part d'un profond mal-être. Mais bon, c'est un rôle de comédie, donc y a une sorte de décalage et tout ça. Mais si on se plonge dans la réalité du mec, c'est un mec qui s'invente une vie dans l'espoir de pouvoir survivre. Il se déteste. C'est ce qui le rend touchant au final. Il aimerait ne pas avoir à faire ça, mais bon. Ouais, c'est peut-être aussi un peu un branleur aussi dans le fond. Ouais, ça, un mec malhonnête. Donc Playboy, oui. Mais il y a des sous-couches un peu du méchant. Le méchant
oui,
d'histoire,
ouais. Il est manipulateur. Hein, il est très très malin, ouais. ce personnage.
Ouais.
Et puis dernièrement, ça va sortir le 27 septembre.
Ouais.
Le film de Philippe Lefebvre.
Ouais.
Nouveau départ.
Ouais.
Très beau projet.
Ah ouais. Je sais pas si vous l'avez vu en première.
Oui, on l'a vu en projection presse. Ils sont venus nous présenter avec Franck Dubosc.
Ouais.
Et ils n'ont pas taridé là sur vous. Non, c'est pas vrai. Ils ont dit il est moche, il est pas beau. Arrêtez de parler de lui.
Il faut bien démarrer avec quelque chose aussi, Dima. Voilà. Il semblerait que ce soit en physique, si vous voulez. Non, ça paraît super film, très réussi, comédie romantique, qui est un genre difficile à traiter, surtout en France, puisqu'on a une approche un peu différente des Anglais ou des Américains qui réussissent l'exercice à merveille. Mais là, on est dans un film qui, déjà, est familial, mais qui, en plus, prend un peu une sorte de contre-pied de ce qu'on a l'habitude de voir dans une comédie romantique entre deux jeunes. Là, on est dans la cinquantaine. La cinquantaine, une séparation après 25 ans d'histoire.
Mise au placard de Karine Viard, enfin du personnage de Karine Viard.
Cette espèce de pétage de câble que peuvent connaître les couples qui sont ensemble depuis 25 ans. Voilà. Donc c'est bien d'en parler parce que ça arrive à beaucoup de gens, la routine, où est-ce que ça nous mène, qu'est-ce qu'on devient marre de l'autre, en même temps la sensation de l'aimer parce que l'habitude, tout ça. Donc c'est des sujets sensibles, des sujets un peu tabous parfois entre les gens. Mais là voilà, c'est traité avec humour mais en même temps ça, je pense que ça va détendre pas mal de personnes qui se disent ok, c'est normal de traverser ça, c'est bien aussi de le traverser, de l'assumer, de dire que ça va pas, qu'on se sent détaché, tout ça. Donc pareil, là entre la lecture du scénario et la redécouverte du film, deux choses complètement différentes et deux plaisirs différents. C'était super de voir le film.
Heureux d'avoir eu le casque pour le coup de tête de Franck Dubosc.
Ouais, très très bonne idée de comédie, ça. Très très un fort effet visuel, ça. C'était très bien. Et d'ailleurs, à la lecture du scénario, je dis putain, est-ce que ça marche vraiment ça? Et j'ai questionné Philippe Lefebvre, le réalisateur. Je lui ai dit, on est sûr de ça? Est-ce que ça marche? Il me dit, on verra, mais moi j'y crois. Et sur le plateau, en fait, ça fonctionne très bien. Mais c'est le genre d'effets visuels qui peuvent être un peu à double tranchant. Soit c'est impossible, soit il faut vraiment qu'il y ait le temps, il faut qu'il y ait un timing parfait pour que ça marche. Mais là, ça marche très bien et ça déclenche un rire très fort et très, très spontané dans la salle. Donc, ouais.
Dernière question, des projets, aussi bien musique?
Ouais, absolument. En musique, effectivement, je continue à sortir un peu tous les mois des morceaux parce que ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Voilà, j'aime ça, j'aime partager ma musique qui veut l'entendre et je continuerai d'ailleurs toute ma vie à garder ce projet au chaud et précieux, c'est très précieux pour moi de faire ça, ça me fait beaucoup de bien. Et en cinéma, voilà, la sortie de ce film, des projets l'année prochaine dont je
que je ne peux pas parler parce que c'est top secret, tôt, avant que ça. Ce soit commencé.
Voilà, je tourne un film au mois d'octobre, pas historique, mais voilà. Donc je continue mon petit bout de chemin dans cette vie d'artiste.
Merci beaucoup,
en merci tout cas. À vous.
Merci d'être venu au festival.
Avec plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli.
Hâte de vous découvrir dans un rôle un peu plus noir.
Ça va venir.
J'ai très envie.
Ça va venir. Ça va venir.
Comme je vous le disais, il a rencontré les scolaires. Et il y a un moment très fort avec eux. Et je ne peux pas passer à côté. J'ai très très envie de vous faire partager quelques moments qui se sont passés avec les jeunes, le débat, les retours, réponses, enfin questions-réponses qu'il y a eu à la fin de la projection.
Pour la petite anecdote, c'est marrant, je sais pas, vous avez vu sûrement les deux premiers épisodes, hein, c'est ça? Bon, ce que je raconte ne spoile pas, mais l'épisode 3, il y a un blessé qui arrive avec un éclat d'obus, donc un trou dans la jambe, au niveau de l'artère fémorale, qui est donc l'artère qui traverse la cuisse et qui est vraiment un truc très épais. Donc si elle est percée, c'est imaginez les dégâts. Et j'étais absolument pas préparé à ça, et je découvre sur le moment du tournage, donc je savais ce qu'on allait tourner, j'avais les dialogues, mais j'avais pas vu le blessé, j'avais pas vu tout le travail de maquillage. Et le mec arrive sur le brancard pour la répétition, et je découvre la blessure. Qui est donc fausse, hein, c'est du latex, tout est fait avec, évidemment, il n'y a rien de vrai, on est d'accord là-dessus. Mais j'ai eu un haut-le-cœur parce que c'était tellement bien fait, il y avait un tel travail de reconstitution, même à ce niveau-là, sur le maquillage et tout ça, que je me suis mis un court instant à la place d'un chirurgien de la guerre qui peut, à ce moment-là, découvrir un mec qui, en plus de figurant, je ne sais pas ce qu'il avait pris ce jour-là, mais il était au taquet, donc il hurlait à la mort comme jamais. On lui a même demandé, moi je lui ai demandé gentiment, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu peux te calmer un peu, c'est vraiment en train de me faire paniquer d'une violence sans nom. Il était là, il transpirait, il était genre, ah, ah, ah. Donc le mec était à fond, il m'a plongé dans une réalité, c'est le figurant qui a fait le boulot, quoi. Et il saignait et tout. Et donc, il y avait sous la table un mec caché qui avait une bonbonne de sang, en fait, et il envoyait de la pression dans un tuyau qui passait dans le costume du mec et qui arrivait jusqu'à la plaie et qui envoyait des jets de sang comme ça, pour que nous, on travaille dessus et qu'on se mette à coudre et tout. Une fois de plus, ça ne spoile pas l'histoire, c'est juste un fait. Et donc, on commence à bosser sur le truc, on commence à tourner et tout machin, et le gars qui est en dessous, je sais pas ce qu'il m'a fait, le mec qui est en dessous avec la bonbonne de sang, il a envoyé un jet, mais un truc, c'est-à-dire que c'est parti à 4,50 m, ça s'est explosé contre le mur, et là, je peux te dire, j'ai fait moi un bond en arrière, j'ai dit, attendez les gars, il va falloir qu'on coupe, parce que je vais tourner de l'œil. Il y avait une quantité de sang sur la table, mais c'était presque trop, et j'ai dit, il faut couper, là, ça devient ridicule, et il y avait un spécialiste du corps humain, un spécialiste, un anatomiste et spécialiste de la guerre, qui est venu me voir, et qui m'a dit, il n'y a rien à couper, là, quand ça saigne de l'artère fémorale, ça saigne comme ça, voire plus. Donc, c'est-à-dire que la table était... On baignait dans le sang, ça n'avait plus aucun sens. J'en aurais pu vraiment faire une... C'était... comme quoi, ça m'a, bon, une fois de plus, mis dans une réalité un peu... voilà ce que c'était la guerre, la première guerre.
Quel est votre parcours depuis le début jusqu'à arriver ici?
Donc, j'ai quitté la guerre. J'ai pris la route pour... Mon parcours, j'étais tout de suite passionné par le métier d'acteur. Donc je me suis dit, pour m'en rapprocher le plus possible, je vais faire une école d'acteur. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des cours de comédie jusqu'à à peu près mes 22 ans. Et après, je suis petit à petit rentré dans le métier par le biais du casting. J'ai rencontré un agent, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire des petits projets qui ont mené à des plus gros projets, et petit à petit, voilà, le métier d'acteur est assez ingrat à ce niveau-là, parce que c'est difficile de multiplier les projets, surtout quand on démarre, mais voilà, j'ai commencé à 22 ans par une série télé, ensuite par un film, et après j'ai fait de la scène comique, j'ai eu un duo comique pendant plusieurs années. Donc voilà, j'ai essayé d'entretenir ce métier.
Par la chanson aussi, hein.
Par la chanson, ouais. Mais bon, le parcours d'acteur, voilà. Je fais aussi de la musique, voilà, exactement.
Merci.
Je t'en prie.
Par rapport aux 10 heures de travail pour 2 minutes de film, je sais pas combien fait de saison la série, mais combien de temps vous avez tourné en tout pour juste...
C'est une bonne question. Alors, en plus, je vais te dire direct, on a tourné 6 mois. Enfin, moi non, parce que voilà, c'est il y a beaucoup de personnages, mais la série entière a duré 6 mois. C'est une production très ambitieuse avec beaucoup de figurants, tout un travail de reconstitution et tout ça, donc ça prend du temps. Tous les films d'époque prennent du temps, mais là voilà, c'est 6 mois. Tu vois, il y a 8 épisodes de 52 minutes, donc faut compter à peu près un petit peu moins d'un mois par épisode, à peu près. Voilà.
Juste de tournage.
Un an de post-prod, je crois.
Voilà, un an de post-prod
et 6 mois. Un an de montage et effets spéciaux.
Ah, donc c'est encore plus conséquent.
Ouais. Tout le travail de montage, d'étalonnage, effets, tout ça, ça prend un temps.
Rappel, disponible en intégralité sur Netflix et pour vous donner envie d'aller voir votre petite plateforme, voici la bande-annonce.
Mes chers compatriotes, l'esprit de domination est venu menacer la liberté des peuples.
Tous les hommes sont mobilisés et la guerre est partie pour durer.
Vous voulez faire quoi quand il a une de front?
Je vais travailler. J'ai besoin de vous. De vous toutes. Que dois-je faire? Je suis sûre qu'on va faire de grandes choses.
Inédit, Les Combattantes, la série événement de la rentrée, prochainement sur TF1.
Tom Lehm nous l'a dit, on en a parlé avec lui. Il est aussi à l'affiche du film Nouveau Départ qui sort ce mercredi 27 septembre. On l'attendait avec impatience. Un film de Philippe Lefebvre avec Franck Dubost et Karine Viard notamment, mais aussi Tom Lehm. Et Léo, tu vas nous dire de quoi ça parle.
Amoureux de Diane comme au premier jour, Alain traverse la cinquantaine sans crise. Même le départ des enfants, il l'a bien vécu. Diane moins. Cette période, elle l'entame avec la sensation qu'elle pourrait mourir d'ennui ou d'angoisse. Pour Alain, qui voit pour la première fois son couple vaciller, il est temps de se poser les questions essentielles et de prendre un risque majeur après 30 ans de vie commune. Quitter Diane pour réveiller la flamme et l'envie de se retrouver. Nouveau départ, c'est l'histoire d'une histoire d'amour à qui tout double.
Oui, c'est vrai. Et notamment, Tom Lehm joue le patron, le nouveau patron de Karine Viard. Et bien, il va y avoir un petit jeu qui va se passer. Une fée, on va faire croire qu'ils sortent ensemble. Et ben, c'est pas le cas pour le début. Et puis après, petit à petit, vous verrez. Et c'est vrai qu'il y a des moments très drôles dont on a parlé, comme le coup du casque. Qui est monté une scène très drôle. Et je vous invite vraiment à vous rendre au cinéma le 27 septembre pour découvrir Nouveau Départ et pour vous donner envie de découvrir ce film. Voici la bande-annonce.
À l'éternelle jeunesse de la femme que j'aime.
25 ans de boîte. Tu demandes un truc.
À l'amour de ma vie.
Bon, écoute, va chercher le gâteau et qu'on en finisse.
Sensation de chaleur ?
Aucune.
Vous avez pris un petit peu de poids ?
Non.
Bah donc c'est génial, vous n'avez aucun symptôme de la ménopause.
Voilà.
Je te dis qu'elle n'a pas d'amant, arrête avec ça. Ton amant c'est Stéphane, point d'interrogation, c'est qu'il y a un doute.
Vraiment, je ne suis pas avec cet homme, c'était un jeu.
T'es amoureuse de moi ?
Ça fait 30 ans qu'on est ensemble, on n'est pas des amoureux, c'est pas...
On est quoi ?
On est un couple.
On se sépare.
Quoi ?
Moi, je t'aime, alors j'agis. Il faut qu'on se manque, qu'on ait peur de se perdre.
C'est dangereux, Alain.
Je sais. Tu dois faire un papier là-dessus. Célib à 50 ans, nouveau départ au garage.
Maintenant, tu prends du plaisir, ça te plaît, tu gardes, ça te plaît pas, tu jettes. Tif, 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 tif.
Aïe, oh, la honte, je suis bloqué.
Parce qu'il s'éclate, tu crois?
Quand ça va savoir, ça va être l'émeute. Alain, l'artiste, le beau gosse, pas de ventre, tous ses cheveux.
Tu me régales.
T'es venu pour manger.
Oui.
Maman, c'est ta vie que t'as décidé de prendre en main. Et on s'en fout que machine, elle ait 35 ans.
Elle a 35 ans !
T'es sur haut-parleur ?
Non.
Premier rendez-vous, toujours chez la fille. Comme ça, tu la déglingues et tu rentres chez toi.
Non, mais tu plaisantes ? Mais Thierry, tu vas pas me laisser comme ça !
Thierry !
Désolé, je n'ai pas compris votre demande.
C'est drôle, c'est frais, mais il y a un message fort aussi sur la cinquantaine, sur l'amour véritable. Et oui, les choses qu'on ne dit pas, mais qui sont vraies et qu'on ressent. Et ça, vous le découvrirez tout au long, il y a un très très beau casting. On en parlera avec Clément, qui a pu faire l'interview de Philippe Lefebvre et de Franck Dubosc. Mais c'est vrai que c'est un pur moment de bonheur. Et Tom Leb est très drôle dedans. Et puis bah voilà, c'est le beau gosse quoi, il faut pas mentir hein. C'est vrai. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir le film le 27 septembre au cinéma. C'était Chaud Devant, festival international du film de fiction historique avec Tom Leb. Merci beaucoup à Tom Leb d'avoir accepté cette interview, d'avoir été à la rencontre des scolaires et merci énormément à toute l'équipe du festival pour leur accueil et pour nous permettre de faire des interviews incroyables. On continue à dérouler au fur et à mesure de la semaine les nouveaux invités. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back.